18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien, c'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U sur le 101.1. Au programme de votre quotidienne, nous allons écouter un reportage de Jérémy sur le handisport, mais avant cela, nous allons discuter avec mes invités en studio du carnaval de Landerneau avec l'association Arrête ton char, et justement, trois de leurs membres sont dans nos studios. Bonjour à vous déjà.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors je suis avec Ronan, Madec, Séverine et Yann. Alors déjà, qui fait quoi dans l'association là ? Séverine, je crois que tu es secrétaire et tu t'occupes des costumes, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, oui.
C'est ça.
Donc moi c'est Ronan, président de l'association.
Mmh. Et moi Yann, je suis le trésorier.
Parfait. Et puis question la plus simple, qu'est-ce que c'est que cette association du coup Arrête ton char ?
Alors donc on a créé cette association pour le carnaval de Landerneau spécialement. Donc en 2018, on s'est dit, tiens, on va créer une association pour faire un char, parce que le défi, c'était de faire notre rêve à nous, c'était de faire le char. Donc on a réuni deux communes, en fait, pour avoir plus de monde. Donc on a mutualisé deux communes. Ça a matché de suite, et puis nous voilà partis après pour une aventure, quoi.
Ouais. Vous avez matché Saint-Divy et la forêt de Landerneau.
C'est ça.
Et justement, cette année, c'est un peu spécial. Déjà, c'est la reprise, c'est la deuxième édition depuis le Covid, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais. Et là, c'est un peu spécial parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui est en charge du char, ou en tout cas des grandes sculptures. Vous avez très certainement entendu parler, si vous avez checké ça sur le journal, le Télégramme notamment, avec une statue de Mario de 2,70 m. Il y a aussi un Bowser et une plante piranha. Et justement, pourquoi avoir choisi ce thème au départ?
Alors le thème, en fait, on a fait une soirée et donc on a demandé à tout le monde, en fait, de participer pour pouvoir choisir le thème, en fait. Okay. Donc on a mis des post-it sur les tables, tout ça. On a fait une présélection, il restait 5 et dans les 5 Mario était, et puis j'ai pris 5 personnes pour venir défendre leur thème, celles qui avaient dit Mario, il y avait Astérix, Obélix, d'autres thèmes, Harry Potter aussi. Et donc, la personne est venue défendre son projet en disant, moi, j'aimerais bien un grand kart, voilà. Et puis, ça s'est choisi comme ça.
Mmh. Et justement, qui est cette personne ? Est-ce que c'était celle qui était en charge de ces sculptures ?
Non.
Ah !
Non.
Et on peut parler de celle qui est en charge des sculptures, parce que c'est ça qui a été un travail monstre, quand même, cette année, je crois.
Ça fait partie du travail, ouais, parce que c'est beaucoup de travail. Surtout le char. Après, là, c'est un gros travail parce qu'en fait, Arnaud gère ça. Il veut gérer ça tout seul, en fait. Parce que c'est un artiste et il veut gérer son petit truc à lui comme ça. Donc, il est un peu aidé avec ses parents, mais autrement, c'est essentiellement lui. Donc, après, on lui a donné carte blanche pour gérer ça, quoi.
Et ce n'est pas la seule attraction de ce char. Il y aura aussi des costumes, des chorégraphies, justement. Et
tout à fait.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Qu'est-ce qu'il y aura en plus de ce char ?
Pour les costumes, Séverine est là, donc elle va pouvoir en parler elle-même.
Alors, concernant les costumes, en fait, on est une centaine de personnes à défiler. Il faut donc costumer les 100 personnes. Sachant que j'ai commencé... il fallait établir un budget. Pour le trésorier et le président, c'était important d'avoir le budget des costumes. Donc, il fallait déjà déterminer les prototypes, savoir qu'est-ce qu'on allait faire, quelle quantité, en prévision d'un nombre d'adhérents qui n'était pas connu à l'époque, puisque les derniers adhérents se sont manifestés la semaine dernière. Et donc, il a fallu tabler sur l'expérience aussi du carnaval d'il y a 2 ans, le premier auquel on avait participé. On était 112 la dernière fois, j'ai tablé sur une centaine, et là, on est 100, 105. Donc, on a quelques costumes supplémentaires à finir encore d'ici dimanche, mais on est bien parti. Donc, voilà. Et donc, il fallait rester dans le thème et puis imaginer comment est-ce qu'on allait faire des Mario, des Luigi, des Yoshi, des Birdo, un Bowser, un Donkey Kong. Venez dimanche, vous verrez, on a bien bossé.
Il y a tous les personnages pour le coup ?
Tout ce que je viens de vous dire, oui.
Ah !
Oui, oui, il y a aussi des mascasses et puis une armée de champignons multicolores. Voilà.
Et quelques princesses.
Et quelques princesses, bien sûr, j'ai oublié les petites filles. Oui, tout à fait.
Et donc, il y a aussi une chorégraphie, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Yann ? On ne t'a pas beaucoup entendu depuis le début.
Ouais,
qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Alors, la chorégraphie, donc, il y a une équipe de danseuses qui travaille dessus. Donc, l'idée, c'est d'avoir des musiques qui soient assez festives, parce qu'il faut que ça bouge. Enfin, nous, en tout cas, c'est l'idée. ça bouge pas forcément. Enfin, les musiques sont pas forcément hyper entraînantes sur tous les chars, ou en tout cas, c'est le sentiment qu'on avait eu il y a 2 ans. Donc, on s'est dit, il faut que les musiques bougent bien et soient quand même en rapport avec le thème. Mm-hmm. Donc, la musique, on va dire, principale, c'est celle du film Mario, Peach, chantée par Bowser. Mm-hmm. Donc, il y a une chorégraphie sur cette chanson-là. Il y en a une autre qui est festive, qui n'est pas direct en lien avec le thème Mario, mais qui est sympa, qui bouge et sur laquelle on se trémousse pas mal. Donc, il y a eu plusieurs répétitions. Il y a des vidéos qui ont été faites par les 4 danseuses. Pour les diffuser, on les a diffusés sur nos réseaux sociaux pour que les participants puissent répéter chez eux aussi, parce qu'on ne peut pas réunir tout le monde trop régulièrement et tout le monde n'est pas forcément disponible. Mmh. On a fait 2 sessions de répétition, une session spécifique juste pour la danse, et le week-end dernier, quand on a présenté le char à la population des 2 communes, on a fait barbecue, frites, etc., et répétition des chorégraphies, donc c'était assez sympa. Il y avait,
et distribution des costumes.
Et distribution des costumes, bien sûr. Et il y avait une bonne 50aine de personnes, donc à peu près la moitié des gens qui vont défiler, qui étaient là à répéter. Et ça rend pas mal, c'est plutôt sympa. Et l'idée, c'est de faire des chorés assez simples que tout le monde puisse suivre et qu'on arrive à marcher en même temps, parce qu'en fait, le défilé ne s'arrête pas pour les chorégraphies, évidemment.
Ah oui. Ah oui.
Donc pendant le défilé, quand même, malgré tout, on peut préciser que nos danseuses seront sur le char à danser en face de nous pour nous montrer qu'on puisse les suivre si on n'a pas tout retenu. Donc, et ça rend plutôt pas mal, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois déjà.
Vous avez vu peut-être les autres chars, je crois qu'il y en a 20 différents. Vous avez pu voir ceux des autres, ou est-ce que vous en avez entendu parler peut-être ?
Tous les jours, on vérifie sur le Facebook du Carnaval de la Lune Étoilée qui publie des vidéos d'une à deux associations par jour, là, depuis la semaine dernière. Mais on ne voit pas toujours grand-chose, donc on les découvrira surtout dimanche quand on s'installera.
Pardon, on est une des. Enfin, de toutes les associations, on n'a jamais trop caché en fait le thème, parce qu'on part du principe, bon là, on a vu le Mario. Mais le Mario assis sur le kart, ça va pas rendre pareil. Le Bowser derrière, ça va être juste l'éclate quoi derrière. C'est un grand flash quand ça va rentrer dans le centre-ville de Landerneau. On verra que ça.
C'est ça. Ah oui, parce que sur le Télégramme, pour citer l'article que j'ai lu, on ne voit qu'une partie de Mario et pour le coup, on ne voit pas le char en entier. Et ça fait. Il y aura de la surprise pour tout le monde, pour vous, mais aussi pour les spectateurs. Peut-être on peut passer aux infos pratiques, à moins que vous vouliez ajouter peut-être quelque chose à savoir sur le char. Non, les infos pratiques. Peut-être, ah oui, est-ce que vous avez des idées pour l'année prochaine, peut-être ? Ou alors vous, on voit déjà comment ça se passe cette année.
On va faire celui-là d'abord.
Ouais, c'est ça. On voit déjà comment ça se passe.
C'est le deuxième, enfin on peut dire même 3, parce qu'il y a eu la Covid qui est passée par là. Mm-hmm. Donc notre char, le premier char, il a fallu tout le démonter pour le remonter. Donc là, c'est comme si on avait fait 3 chars en fait. Donc c'est beaucoup.
Ouais.
Puis faut aller au bout du truc déjà, et puis on voit après. On se pose un peu et puis après on réfléchit.
Des vacances déjà.
Ouais, c'est ça.
ouais, du coup, les infos pratiques, comme je disais, donc ce sera le dimanche 21 avril qu'on vous verra à Landerneau. À partir de quelle heure, est-ce que vous savez ?
14h.
14h de départ du défilé.
C'est ça. Le char, en fait, à 9h30, quasiment tout le monde sera chacun dans 3 hangars différents. Donc nous, on sera dans l'ancienne carrosserie Le Gouen, là. On va avoir un signal. Et donc, il faut que pour 11h, à peu près, tous les chars arrivent sur site, en fait. Donc là, avec tous les bénévoles, la dernière fois, on n'avait pas fait ça. Cette année, on va faire comme ça. C'est faire le pot devant le char, en fait. Ça permettra de voir aussi les autres associations. Et puis, sympathiser. On a déjà un peu sympathisé avec eux, mais ça permet de rencontrer tout le monde, quoi.
Oui, garder cet esprit de convivialité,
tout
de festivité.
Tout à fait.
Vous savez un petit peu peut-être le trajet, comme ça on peut peut-être le choper en chemin, peut-être.
Ah, le centre de Landerneau, de toute façon, sera complètement bloqué. Donc le parcours part du Family et fait le tour de l'Élorne en passant par le pont habité et puis revient au Family.
Parfait. Et puis, est-ce qu'on peut suivre vos aventures de votre association ? Il y a beaucoup d'images sur votre Facebook, je crois.
Oui.
Du coup, c'est Arrête ton char, Carnaval 2024, je crois.
C'est ça.
Tout simplement.
Et il y a un Insta aussi.
Un Instagram, parfait. Peut-être, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de fin avant de quitter nos micros ?
Il ne faut surtout pas hésiter aussi à aller sur le site officiel de la Lune Étoilée aussi. Ça permet de voir aussi toutes les vidéos. La Lune Étoilée a fait une vidéo à chaque association. Donc, petit à petit, chacun a sa petite interview aussi. Et puis, s'ils nous entendent, un grand merci aussi à la Lune Étoilée. Parce que grâce à eux aussi, on fait beaucoup de belles choses. Donc, voilà. Ils sont toujours derrière nous, donc c'est important de le dire. c'est voilà, c'est on ça. Est quand même suivi et parce qu'il y a un cahier des charges, il y a beaucoup de choses à respecter et puis financièrement aussi parce qu'ils nous donnent aussi des subventions. Mm-hmm. Donc voilà.
Ouais, faut se représenter qu'un enfin un char comme le nôtre, c'est un budget de 6 000 euros. Mm-hmm. À peu près, sachant que en gros en répartition, on est à peu près sur 3 000 euros pour le char en lui-même. Entre 1 200 et 1 500 pour les costumes et puis le reste frais de fonctionnement etc. Donc c'est voilà, il y a des subventions données par les communes, par le carnaval de la Lune étoilée, il y a les adhésions qui représentent 1 200 1 300 euros et tout ça mis bout à bout, faut encore aller chercher à peu près 2 000 euros en faisant des animations et en allant chercher éventuellement d'autres subventions. On en a eu cette année via le département suite à une candidature qu'on a posée. Donc voilà, ça fait pas mal de boulot de ce côté-là aussi, pour la partie trésorerie. Et ne pas oublier, le carnaval, c'est pas que dimanche, c'est sur 3 jours, parce que vendredi, il y a le carnaval des enfants, avec une soirée guinguette le soir sous le chapiteau. Le samedi, il y a la déambulation des fanfares, et le soir, l'élection de Mister et Miss Carnaval sous le chapiteau aussi. Et donc le dimanche, le grand défilé, l'apogée du carnaval.
Parfait.
Et le jeudi soir, c'est l'ouverture officielle, en fait. Donc, Monsieur Patrick Leclerc sera là pour donner les clés de la commune à la Lune étoilée pour qu'on puisse avoir accès à tout le centre Landerneau.
Parfait.
Si je peux ajouter, les places sont en prévente sur le site du Carnaval de la Lune étoilée. C'est 7 euros en prévente. Je crois savoir que si on arrive déguisé, on peut payer moins cher dans l'ordre de 4 euros.
4 euros, ouais.
Donc, n'hésitez pas à venir. Ça peut vraiment être sympa. On attend 55 000 personnes.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour vos précisions et merci à vous d'être venus jusqu'ici.
Merci.
Merci de nous avoir invités.
Et puis, on va passer à la petite pause musicale. Alors, je ne l'avais pas noté dans mes notes. Est-ce que, Jérémy, tu peux allumer ton micro et nous annoncer la musique ?
Bonjour, bonsoir. Mais tu en as mis deux, Victor. Du coup, je me retrouve bien embêté. Eh bien, écoutez, chers auditeurs et chères auditrices, on va s'écouter. Alors, quel est le groupe ? Quel est le... Merde.
En dessous,
pardon.
En dessous.
En dessous ?
Bah, c'est le nom en dessous.
Ok, le nom du groupe est en dessous.
Je crois, oui.
Et t'en es même pas sûr. Hop, allez, on va dire Hôtel Luxe, The Last Hangman.
We'll be right back. the poor struggler's last orders ring. Dear points code of what's right and what's wrong, they clash and they cling. And here sails the ship of the Hamas legacy, just north of the pause of moral reclamation. Albert Pierpoint's desired destination.
Et c'était The Last Hangman de Hôtel Luxe que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U sur le 101.1. C'est vous qui le dites, ça continue et je vous avais prévenu en début d'émission, on va écouter un reportage de Jérémy sur le handisport.
J'aime beaucoup les handicapés. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on est en train de les intégrer de plus en plus. Vous voyez, par exemple, il y a dans le sport, il y a les gens handisport maintenant. Voilà. C'est rigolo à regarder, hein. Je sais pas si vous avez... Non, mais c'est rigolo parce que c'est un peu absurde, tu vois. T'as un départ de 100 mètres, t'es là, t'as un mec qui a pas de jambes. Il a juste deux spatules à crêpes comme ça, là. Je sais pas pourquoi, tu vois. À côté, il y a un mec qui en a une. Et à côté, il y a un sourd.
Vous l'aurez compris à travers ce sketch d'Artus, le handisport prête à rire, même dans des spectacles. Pourtant, ce dernier est une vraie discipline dont la première apparition aux Jeux Olympiques remonte à 1960. Plus globalement, on parle de parasport, qui est le terme générique pour désigner l'ensemble des sports pratiqués par les personnes en situation de handicap, en loisir comme en compétition. Le terme handisport, lui, désigne une fédération sportive. Et ce qui est certain, c'est que derrière l'humour se cache un vrai sujet. Le handisport est-il traité de la même manière que le sport dans les médias ?
Pardon. Merci.
Bienvenue aux Assises du journalisme de Tours 2024. Nous sommes au centre des congrès où a lieu une conférence sur le parasport. L'occasion de rencontrer Laurence Pécaud-Rivolier de l'ARCOM et présidente du groupe de travail Protection des publics et diversité de la société française, et Rayad Salem, sportif de para-rugby et membre du comité des Jeux Olympiques et Paralympiques. À l'approche de ces Jeux, ils sont tous les deux au centre de dispositifs notamment médiatique, qui se prépare.
Alors, je crois que ça va être vraiment assez exceptionnel comme dispositif à tous égards. La première chose, c'est qu'il y aura une retransmission intégrale de tous les Jeux paralympiques. Donc ça n'était jamais arrivé. La deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des dispositifs en matière d'accessibilité tout à fait novateurs, notamment audio-description sur France Télévisions pendant 7 heures des événements sportifs. Et puis ça s'ajoute au fait qu'il semblerait qu'il y ait une vraie sensibilisation des téléspectateurs et qu'ils ont envie de regarder les Jeux paralympiques. Donc ça va changer aussi. Je pense que très clairement, c'est sociétal de manière générale. Les médias sont quand même très très attentifs à essayer d'avoir du respect à la fois dans les termes employés, dans la représentation des personnes en situation de handicap, avec des échecs. On est en contact en permanence avec par exemple l'association des personnes de petite taille qui voit dans les écrans encore des vestiges de manière complètement caricaturale de les représenter. Donc il y a une attention permanente à porter. Et effectivement, les journalistes sont des êtres humains, donc ils portent aussi leurs préjugés.
Bah déjà, dans la symbolique, le fait qu'on ait un même comité d'organisation, qu'on ait un même logo, qu'on ait voilà, une même équipe, ça permet aussi d'être au cœur du système et d'alerter sur les choses et de donner notre expertise. On voit dans le quotidien, il y a évidemment pas énormément de lieux accessibles pour pratiquer du sport. Donc ces jeux vont impulser aussi ça. Il y a eu énormément de moyens qui ont été mis dans les gymnases, dans les infrastructures. Donc, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, les médias sont focalisés sur les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, heureusement aussi, on a des médias, des réseaux sociaux qui permettent d'avoir une couverture qui est moins connue encore du grand public, parce que si vous n'êtes pas du milieu, évidemment, vous n'avez pas l'information. Donc, il faut trouver la passerelle entre ces médias sociaux qui puissent aller sur les médias traditionnels. Et plus les médias traditionnels vont parler du parasport au-delà des Jeux, et plus on va créer cette culture du sport handicap dans notre pays.
Ça fait partie aussi de l'opération Jouons Ensemble qu'on fait annuellement, dans laquelle on demande aux éditeurs de nous faire un panel de dispositifs qui permettent à la fois d'inclure le plus de sports, de parasports possibles, et le plus de représentations possibles. Donc ça s'inscrit complètement là-dedans. Donc la prochaine édition, ça sera novembre 2024, et on espère bien que ça sera fructueux de ce côté-là.
Des efforts sont donc faits à plusieurs niveaux pour qu'il n'y ait plus de distinction et que le sport soit plus générique et inclusif. Les médias, en tant que reflet de notre société, sont donc investis d'un véritable rôle à l'approche des Jeux cet été. Malgré tout, ces derniers peuvent aussi apparaître comme un coup de peinture sur un mur moisi, le temps d'un mois. Et l'inclusion dans le sport se confronte aussi à d'autres problématiques que la représentation médiatique. Et c'est à Brest que l'on se retrouve pour parler d'une autre fédération de parasport, bien plus délaissée que son cousin le handisport, il s'agit du sport adapté. La Fédération Française de Sport Adapté, FFSA, est au service des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Elle compte aujourd'hui plus de 65 000 licenciés en France, ce qui fait d'elle la plus importante fédération de sportifs en situation de handicap.
Nous sommes les seuls sur Brest. On s'associe à une équipe de plus années, hein, de plus années également. Non, mais vraiment, il y a une à Briec, sud Finistère, il y a une à Quéryon, Dalmézo. Mais autrement, sur Brest, on est la seule équipe.
Et au niveau national, ça existe des compétitions au niveau national?
Ah bah ouais, mais t'as une équipe, de basket.
Sport,
ouais.
Ok, d'accord.
Sport adapté, ouais. Ah ouais.
Donc c'est une équipe nationale, c'est qu'il y a aussi des compétitions internationales.
Oui.
Ok.
Ah ouais, t'as une équipe.
Donc ça fait combien de temps que vous tenez cette association?
10 ans. Ça fait 10 ans que l'association existe. Ça fait 10 ans, il y en a 4. Il y a 4 depuis le début. Là.
Ok, oui.
Chaque année, après, on essaie de renouveler l'effectif.
Ok, championnat départemental.
Ouais, le Finistère et puis Bretagne.
Ok. C'est tout récent, ça.
Hein?
C'est tout récent.
Bah ouais, il y a 22 jours.
Et 15 jours, voilà.
Ouais.
Oh, mais c'est quoi?
Celui que vous venez d'entendre, c'est André Vaillant. Il est l'entraîneur de l'équipe de basket adapté de Brest qui vient tout juste de remporter le championnat régional. Malgré le fait que la FFSA soit la plus importante, seulement 3 disciplines y sont représentées aux Jeux Olympiques sur 50 proposées dans les clubs. Alors, pourquoi cette mise à l'écart ? Toujours à Brest, nous rencontrons dans les studios de Radio U sur l'émission Les Sportifs du lundi, le comité départemental du sport adapté en Finistère.
On accueille un public où souvent c'est un handicap invisible, donc on est un petit peu aussi invisible dans les médias. On essaye de communiquer, je pense qu'on communique de plus en plus sur l'autisme, les personnes trisomiques par exemple, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la société, comme ça ne se voit pas, les gens ont peut-être plus de mal à comprendre aussi des fois le handicap invisible. Mais voilà, pourtant on est nombreux, hein, on a 1400 sportifs dans le Finistère. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec eux, pour eux, mais surtout avec eux maintenant, et on leur donne la parole.
Comment on fait, qu'est-ce que fait le comité départemental, la FEDE pour pousser un peu aussi en disant c'est bien, sur toutes les disciplines des Jeux Paralympiques, il n'y a quand même que 3 disciplines de sport adapté, et en plus ce sont quand même des disciplines individuelles, et donc ça fait très très peu de sportives et sportifs engagés.
Oui, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que pour Tokyo 2020, donc pour les Paralympiques qui ont lieu en 2021, on avait 6 sportifs du sport adapté représentés. Donc on n'en avait pas du Finistère. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup encore de travail à faire, puisque en fait, pour la petite histoire, le sport adapté a été évincé aux Paralympiques en 2000, puisqu'il y a une équipe, l'équipe de basket d'Espagne, donc, qui avait triché. En fait, des sportifs s'étaient fait passer pour ayant une déficience intellectuelle, alors que ça n'était pas le cas. Et maintenant, c'est vrai que pour atteindre ce niveau-là, aller jusqu'aux Paralympiques, il y a des tests qui sont passés bien, bien plus poussés aujourd'hui. C'est même très, très long. On a un sportif quand même dans le Finistère qui a une reconnaissance de sportif haut niveau. Donc, Urvan Béton, qui est joueur de foot et de parafoot adapté, qui vient d'être sélectionné d'ailleurs dans l'équipe de France de parafootsal adapté, et qui part en Pologne d'ailleurs cette semaine. Il part en Pologne au championnat d'Europe, première sélection. Donc voilà, un petit clin d'œil pour Gurvan, et on est tous derrière lui. Mais aux Paralympiques, au sport adapté, c'est vrai qu'il y a l'athlétisme, le tennis de table et la natation qui sont représentés pour le sport adapté. Et pour l'instant, en tout cas dans le Finistère, on n'a pas de sportifs, hein, mais en tout cas on soutiendra quand même tous les sportifs français paralympiques du sport adapté.
Le cas de tricherie de la part de l'équipe espagnole amène donc le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques à ralentir le traitement de cette question, comme nous l'avait confié Rayad Salem.
Il y a une histoire un peu compliquée, comme on l'a expliqué, donc il a fallu plusieurs années pour coordonner ce qu'on appelle les classifications, parce qu'il y a des niveaux au niveau des QI qui étaient complètement disparates selon les continents, selon les pays. Donc ils ont essayé d'harmoniser tout ça, et ils ont quand même ouvert la porte à 3 disciplines. Et je ne sais pas, maintenant, le nombre de disciplines est assez restreint, parce que l'organisation des Jeux, vous avez un certain nombre de disciplines qui sont dans les Jeux Olympiques comme dans les Jeux Paralympiques, et ça veut dire que faire rentrer une nouvelle discipline, c'est en retirer une autre. Et donc là, aujourd'hui, il y a un gros pouvoir de lobbying, mais voilà, je ne sais pas si ça le fera, mais en tout cas, ça va être compliqué, quoi. C'est pas au programme.
Parfait, merci beaucoup Jérémy pour ce superbe reportage. Et nous, chers auditeurs et auditrices, on va continuer en musique avec I'm a Mess de Johnny Carwash. Et c'était I'm a Mess de Johnny Carwash que vous venez d'entendre sur les ondes de Radio U. C'est vous qui le dites, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra demain soir, toujours à 18h, toujours sur le 101.1. Merci beaucoup à Ronan, Séverine et Yann d'être venus jusqu'ici pour cette émission. Et bien sûr, merci à Tintin d'avoir assuré la technique ce soir. Merci à Jérémy pour son reportage. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Et je vous dis bonne soirée à toutes et à tous sur Radio U.